carnets de campagne. Bonjour, les carnets dans le Puy-de-Dôme. Et tout de suite, une mention spéciale pour l'École supérieure d'art de Clermont Métropole, qui est une école de taille modeste qui propose une formation généraliste des arts visuels à l'aide d'ateliers partagés et d'un Fab Lab au sein de l'école. Et la mention spéciale va surtout à l'engagement de l'établissement auprès d'une population défavorisée de la ville, en particulier celle du quartier Saint-Jacques. 5 artistes avec l'école de Clermont sont intervenus auprès de maternelle et de classe élémentaire pour monter un programme « Les enfants auteurs de leur ville ». On a proposé aux enfants de redessiner et d'imaginer leur ville. Et c'est très réussi. Allez voir les éléments d'information sur le site de l'école, dont le lien est à nos pages d'émission. Un autre exemple de travail avec les scolaires, c'est du lycée Sévigné d'Issoire, sous forme de rédaction d'un livre blanc Issoire, ville durable. Pascal Chabot, enseignant de cet établissement et premier invité, conduit ce travail avec les lycéens. Et puis c'est notre confrère Eric Van Meer, secrétaire général de l'information de Radio France, qui nous rejoindra pour les rencontres qu'il organise sur les métiers de l'information. Voilà une belle idée dans une tournée des régions au contact des habitants.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Pascal Chabot, bonjour.
Bonjour Philippe.
Pascal, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée de Sévigné d'Issoire et vous êtes à l'origine d'un projet qu'on trouve très très bien. On aimerait que tous les enseignants qui nous écoutent très régulièrement écoutent votre parcours et surtout votre projet pour le faire partager à leurs propres élèves. C'est ce que vous faites depuis le début de l'année scolaire avec des élèves de seconde 3 dans le cadre d'un programme d'écriture d'un livre blanc Histoire-Ville durable. Qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans ce programme et ce projet?
Alors, le programme de seconde en géographie pour la dernière année est fortement basé sur le développement durable. Mmh. Et au début de l'année scolaire, ça ne vous a pas échappé que l'ancien ministre de la Transition écologique est intervenu sur une station radio et nous a fait réagir sur cette urgence qu'il y avait à, entre guillemets, faire quelque chose. Et on en a discuté beaucoup avec les élèves, et on s'est dit, voilà, comment peut-on agir sur la transition énergétique et la transition écologique? Quels sont nos moyens? Et on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est qu'on base notre projet sur ce que l'on peut faire dans une ville moyenne en France pour accélérer la transition écologique.
Alors vous avez prévu 9 thématiques sur lesquelles vos élèves vont plancher, à raison d'une heure hebdomadaire de préparation au CDI avec Magali Germain, votre documentaliste. Et puis le reste du temps, c'est des rencontres sur le terrain avec des acteurs de la transition.
Alors, sur le terrain, c'est très difficile parce qu'on a 30 élèves et les déplacer, il faut des cars, etc. Non, alors on a des associations très sympas et très disponibles qui se déplacent, elles. Mmh. Et les élèves préparent un certain nombre de questions en amont de la rencontre. Et on fait une grande table ronde avec les représentants de ces associations ou de la municipalité pour voir un petit peu ce qui a été fait lorsque c'est un conseiller municipal qui vient, soit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre projet modeste, à petite échelle. Voilà, par exemple, quelles seraient les possibilités pour limiter la circulation automobile en ville.
Et pour ces jeunes d'une quinzaine d'années, parce que c'est à peu près ça pour les élèves ou 16 ans, des élèves de seconde, c'est un enjeu véritable, citoyen, planétaire, ou c'est simplement récréatif dans leur esprit?
Non, alors c'est pas récréatif. Là, ce qui est agréable, c'est que ils se sont bien appropriés le projet. Ce qui les inquiète un petit peu, nous semble-t-il, c'est que c'est peut-être ambitieux. Mmh. En disant, mais on n'y arrivera jamais. Et en effet, on peut pas faire changer les mentalités juste avec un livre blanc, mais on peut faire prendre conscience. Et notre discours avec Magali, c'est justement d'essayer de leur faire comprendre que le but, ça n'est pas de faire la révolution, mais d'agir modestement à notre échelle en proposant des solutions qui peuvent être appliquées par n'importe qui.
Et ce livre, en fin d'année, atterrira sur le bureau du maire.
Voilà, on est en pleine phase de rédaction et de préparation. On a trouvé une imprimerie verte qui se charge de l'imprimer dans le respect du développement durable. On a Suez qui alimente Issoire en eau et qui recycle l'eau, qui subventionne l'impression du livre blanc. Et on espère qu'au mois de mai-juin, on pourra remettre le livre à la municipalité, au maire d'Issoire.
Très belle démarche, bravo pour l'initiative. Vous allez trouver un lien avec le lycée Sévigné d'Issoire, où exerce Pascal Chabot, avec ce projet de rédaction d'un livre blanc, Issoire, ville durable. Merci Pascal.
Merci beaucoup, à bientôt.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Je signale que les cafés culturels associatifs, toujours plus nombreux, ont un réseau de soutien à l'emploi, en particulier en faveur des jeunes, soutien à la formation, soutien financier par des fonds solidaires, pas solitaires. Le réseau est aussi une revue, un livre pratique, créer un café culturel associatif, et ce sont enfin deux rencontres annuelles plénières. Si je signale l'existence de ce réseau, c'est que son siège est à Clermont-Ferrand, réseau-café-asso.fr. Plus largement, l'éventail de ce qui relève des cafés associatifs dont la mission n'est pas exclusivement culturelle, mais aussi sociale, s'élargit de semaine en semaine. Eric nous fait partager l'existence depuis 3 ans d'un petit lieu qui répond au nom du Colibri, tiens donc, à Saint-Germain-l'Herme, 520 habitants perchés sur les monts du Livradois à 1000 mètres. Normalement, si tout va bien, le Colibri devrait organiser le 42e festival du Haut Livradois. Très musical. Le Colibri 63 pour son adresse. Et puis à nos côtés, Eric Valmire. Bonjour Eric.
Bonjour Philippe.
Eric, c'est une voix que vous connaissez, une signature aussi à Radio France et à France Inter. Eric qui est aujourd'hui secrétaire général de l'information de notre belle maison. Et pourquoi on l'a invité ? Parce qu'il a une démarche avec nos confrères journalistes qui est importante, surtout à l'heure où on remet en cause le métier d'informateur, de journaliste professionnel. C'est pas pour défendre une carte de presse, c'est pour défendre des compétences. Et aujourd'hui, à l'égard des réseaux sociaux, de ce qui se dit, de ce qui se montre, il y a du tout et n'importe quoi, fake news, rumeurs. Et aujourd'hui, il y a un discrédit qui est porté sur la profession. Et vous voulez faire comprendre le sens du travail aujourd'hui de journaliste auprès du grand public.
Il y a des mots, Philippe, comme ça qu'on entend souvent, défiance, confiance, défendre, vous l'avez dit là à l'instant. Certains nous disent, mais pourquoi vous adoptez une attitude défensive ? La posture n'est pas du tout défensive. À la place de confiance et défiance, je mets méconnaissance. Et c'est pas du tout la même chose, du coup. Quand on a initié ce cycle de rencontres, ce n'est pas pour réagir de manière opportune au mouvement des Gilets jaunes ou à cette crise de défiance qui transpire tellement par tous les ports médiatiques en ce moment. C'était pour répondre à un constat que j'ai fait depuis 25 ans que je fais ce métier. Je suis souvent questionné sur « mais comment ça marche ?» Et un tel, et machin, et il est comment ? Et les politiques, vous êtes avec eux. De la part de gens qui sont ma propre famille ou des amis proches, et qui ne savent pas du tout comment ça marche, alors que moi j'ai l'impression que, de mon point de vue, je leur en parle, et que les mécanismes sont faciles à comprendre. Non. Et je pense que s'il y a un tort de la profession qui a été historique, c'est justement peut-être d'être un microcosme un peu fermé qui, justement, n'a pas communiqué sur sa manière de travailler. Et je crois que le problème est là. On parle de méconnaissance. Tout comme il peut y avoir de méconnaissance aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas que dans un sens, la méconnaissance.
Oui, vous n'êtes pas omniscient, bien
voilà,
sûr.
C'est ça. Et donc, c'est un principe d'échange, ces rencontres. C'est-à-dire que, d'habitude, quand vous avez des rencontres qui parlent du métier de journaliste, vous avez des journalistes sur scène qui débattent entre eux, qui font grandes dissertations sur le métier, qui sont parfois passionnantes. Et à la fin, vous avez une ou deux questions dans le public qui doit s'arracher pour trouver 5 minutes pour poser des questions, et c'est terminé. Là, on se présente. Plusieurs journalistes d'Inter, de France Info, France Culture, de France Bleu, puisqu'on est essentiellement en région. Et on dit voilà, qu'avez-vous à nous dire ? Quelles sont les questions que vous voulez nous poser ? Si vous avez des reproches, allez-y. On va pas non plus se mettre en crucifix en matière défensive, mais on est là pour expliquer. Et quand je dis expliquer, c'est pas évangéliser, c'est se présenter avec aussi nos failles et nos fragilités et dire comment ça marche. Et surtout adopter un comportement sincère. Et par rapport aux politiques, puisque c'est souvent la question qui revient, dans les sessions qu'on a eues, soit on nous reproche d'être trop gentil, soit d'être trop agressif. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'il y a souvent le ressenti que l'on peut avoir en tant qu'auditeur quand on entend quelque chose et quand chacun a sa manière de l'interpréter. Ça ne dédouane pas le journaliste d'un certain nombre de responsabilités, mais ça, c'est une première question. Et la question essentielle qui est radio de service public au service du gouvernement, non, une radio de service public est au service du public et pas du gouvernement. C'est le contribuable qui la finance, est au service du public. Et on peut en discuter. Et quand je dis qu'on peut en discuter, c'est que l'échange est ouvert. Et qui dit échange, c'est la salle questionne. Mais à travers les questions de la salle, on peut se questionner nous-mêmes. L'ADN du journaliste, c'est de penser contre soi-même. Et donc, dans ce cadre-là, les 5 premières sessions, puisque là on en est, non, 6, on en a déjà fait 6.
Et la prochaine, c'est au MUCEM.
À Marseille, le 29 avril. Ouais. Mais surtout, notre ambition, c'est d'aller aussi dans des territoires, dans des petites communes, de moins de 3000 habitants, d'aller échanger avec la ruralité.
Dans les territoires des carnets de campagne.
Exactement. Mmh. Mais pour ça, on ne s'impose pas, on répond aux invitations. C'est un peu pour ça que...
Bah oui, et avec plaisir, au contraire. Ouais. Parce que je trouve que la démarche, on ne peut plus louable. Méfiez-vous, vous allez créer... de nouvelles vocations, il va y avoir une énorme concurrence aux portes des rédactions. Sérieusement.
Mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans les territoires.
Une commune est intéressée, veut vous inviter, elle vous écrit.
Exactement. Eric.Valmire@radiofrance.com. Il n'y a rien de plus simple. On vient à 4 ou 5 journalistes et encore une fois, l'idée, c'est un échange. Alors, c'est pas à l'antenne, c'est pas médiatisé. On scripte quand même les échanges parce que ce que je veux, c'est que non pas nos réponses, mais les questions et les commentaires soient ensuite irrigués dans toutes les rédactions du groupe. Et je peux vous assurer qu'au départ, on part sur des formats de 3/4 d'heure, 1 heure, on l'a jamais fait. Minimum 2h30, avec des jauges de 250 à 400 personnes. Et qu'au départ, il y a une certaine timidité, ou pas, hein, parce que c'est un sujet quand même qui est un point de crispation. Et donc on veut bien échanger, on veut bien recevoir toutes les critiques, mais avec calme. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un point essentiel, c'est que on peut critiquer notre métier et dire tout ce qu'on veut. Mais cogner des journalistes parce qu'ils sont des journalistes, ça c'est d'abord ça relève du pénal, mais c'est pas acceptable. Et je trouve incroyable
qu'un élu fasse en direct dans une grande chaîne d'audiovisuel la leçon à un journaliste, c'est inadmissible non plus.
Oui, mais que pour la première fois de son histoire, Radio France ait dû avoir recours à des protections rapprochées pour ses journalistes. Aujourd'hui, on va au Yémen, en Syrie, sans protection rapprochée. On en demande dans nos rues, en bas de chez nous, pour aller manifester aux milliers de gens qui sont nos auditeurs. C'est quelque chose qui fonctionne pas, là. Donc, il faut vraiment qu'on se parle.
Merci pour la mise au point et surtout à l'invitation de ce rendez-vous Parlons Info avec les journalistes de Radio France. Donc, vous avez retenu l'adresse. De toute façon, vous allez la retrouver du courrier électronique d'Éric, Éric.Valmire, valmir@radiofrance.com.
On va toujours mettre un Y ou Vladimir, je sais pas.
Oui, merci Vladimir. Merci Éric.